réplique un génocide fait-il une identité avec Nathalie Skovronek et Michel Marian. En cette année 2015, qui est celle du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz et du 100e anniversaire du génocide arménien, Nathalie Skovronek publie « La Shoah de Monsieur Durand » et Michel Marian, « Le génocide arménien, de la mémoire outragée à la mémoire partagée ». Après avoir lu ces deux ouvrages, j'ai acheté, pour parfaire ma préparation, le hors-série de Marianne intitulé « Les Arméniens, une histoire française ». Et je suis tombé sur cette phrase du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. « Le génocide est mon identité, il me structure ». Petite fille d'un déporté du camp annexe d'Auschwitz construit autour de la mine de Yavichowicz, diriez-vous la même chose, Nathalie Skovronek?
Écoutez, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup troublée pendant des années, qui est celle de Ruth Kluger dans son récit « Refus de témoigner ». Donc Ruth Kluger est une Allemande, une juive allemande qui a été déportée à 14-15 ans à Auschwitz et qui en est revenue. Auschwitz et Gross-Rosen, si je me trompe. Et elle a livré son témoignage plusieurs années après la guerre, et un témoignage très fort où elle disait « quoi que vous puissiez en penser, je ne suis pas née à Auschwitz, je suis originaire de Vienne. » Et donc cette femme survivante voulait absolument se détacher de l'idée que le génocide serait son identité ou sa seule identité et qu'elle l'aurait quelque part vampirisée. Et si vous me posez la question à moi, donc petite fille de déportée, mon grand-père donc rescapé aussi, qui probablement aurait pu faire sienne la phrase de Ruth Kluger, eh bien moi, la petite fille, j'ai plutôt tendance à dire oui, ce génocide m'a structurée. J'ai l'impression que, parfois à mon corps défendant, que mon imaginaire vient de là, que ma grille de lecture du monde est en grande partie liée à cet héritage-là. Et donc oui, je crois.
Donc vous répondez oui. Michel Marian.
Moi, j'introduirais deux précisions qui, forcément, sont un peu deux restrictions. Je dirais que la mémoire du génocide est une part de mon identité. Une part de mon identité parce que mon identité n'est pas... non seulement elle n'est pas réduite à sa part arménienne et dans cette généalogie arménienne au génocide... Et la réception même du génocide vient aussi de ces cadres, conceptuels, de ces valeurs qui sont celles de la France où je suis né et où j'ai été éduqué. Donc c'est, de toute façon, ça me paraît impossible dans les termes de dire « est mon identité ». Et je préciserai aussi la mémoire du génocide plutôt que le génocide, parce que l'un des dangers, c'est évidemment de s'identifier complètement aux victimes du génocide, oui. Et en s'identifiant, d'oublier les temps, d'oublier les places. Donc je crois qu'il est très important de préciser que c'est plutôt la mémoire du génocide. Maintenant, bien entendu, si on est amené à faire ces restrictions, c'est bien parce qu'il y a dans le génocide, dans les génocides, une ampleur, un caractère, je crois que vous le dites dans votre livre, un caractère dément qui fait que sans cesse, on y revient de façon différente à chaque fois, mais sans cesse on y revient. Donc c'est sûr que c'est un événement qui est, à partir du moment où il a existé, est tout à fait majeur.
Oui, mais dans le cas arménien, il y a eu ce phénomène de cristallisation même, vous le dites très bien dans votre livre, Michel Marian, autour du mot génocide. Vous titrez même un de vos chapitres, la bonne nouvelle de Nuremberg. À ce moment-là, le mot apparaît, il avait été forgé par Raphaël Lemkin, et vous citez ce directeur d'un quotidien arménien de Paris, Shavar Misakian, qui intitule son éditorial « Génocide, point d'interrogation ». Et vous voyez là qu'une nouvelle revendication prévaloir en milieu arménien qui, dites-vous, allège une identité compliquée, hermétique et lointaine pour la mettre au service d'une cause simple et parlante pour tous, la reconnaissance du génocide, d'où votre affirmation « le génocide est ». À partir de là, un puissant facteur d'identification. Donc ça a joué un rôle tout à fait particulier dans l'identité arménienne.
Michel Marion. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la justice est toujours une bonne nouvelle quand elle arrive, et quand elle arrive dans des conditions et sur des objets qui jusque-là n'étaient jamais traités comme tels. C'est ce qui s'est passé avec Nuremberg. Ce qui a été jugé, bien sûr, c'était des dirigeants vaincus. Certains réduisent ça aux conséquences de la guerre. Mais en fait, c'était la première fois que des dirigeants vaincus étaient attrayés en justice pour ce qu'on a appelé le génocide, disons des crimes contre l'humanité, des crimes contre les civils. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce qui se passe en plus pour les Arméniens, c'est que dans un premier temps, certains d'entre eux, les plus intuitifs, dont ce Shavash Misakian que j'ai cité, se rendent compte que c'est la même histoire. Pour eux, c'est la même histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui a été exterminé dans son intégralité, ou en tout cas la visée était de l'exterminer dans son intégralité. Simplement, cette histoire a viré différemment. Dans un cas, la justice a avorté, ça n'est pas du tout qu'on ne s'était même pas posé la question, on s'était posé la question en 1918-19, mais pour des raisons de circonstances géopolitiques sur lesquelles je ne reviens pas, elle a avorté. Et là, elle repart, elle redémarre. Alors, ils veulent être dans ce train, d'une certaine façon, du redémarrage. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut apparaître ensuite comme une sorte de construction forcée, pas artificielle. Pour des tas de raisons, elle n'est pas artificielle, puisque, d'une certaine façon, la comparaison entre les deux crimes, elle n'est pas venue d'eux, elle est venue d'observateurs extérieurs. Mais ensuite, évidemment, il y a cette unité qui se fait dans ce peuple qui avait, non pas oublié, mais s'était tu, faute d'espérance, et ça va devenir un ciment, oui.
Un ciment identitaire. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, l'expression, on ne le sait pas assez, « crime de lèse-humanité » apparaît en 1915, l'année même du génocide. Ce sont les puissances de l'entente, c'est cela?
C'est ça, qui, oui, France, Angleterre, Russie.
Et qui le disent, et qui disent que...
vous allez rendre des comptes, c'est ce qu'elles disent au...
Le gouvernement ottoman si. Allait rendre des comptes, ouais. Ce qui en effet n'a pas eu lieu.
À l'époque, cette déclaration a été faite assez tôt. Hein. Elle a été faite un mois et demi après les premières déportations. Donc, elle visait... C'était une menace qui n'a pas été suivie des faits, mais c'était vraiment une menace. En plus de ce qu'on a gardé depuis, c'était une caractérisation pour la première fois.
Alors, j'en reviens, Nathalie Skovronek, à ce paradoxe que vous avez énoncé en commençant. Ruth Kluger dit... Moi, je ne suis pas né à Auschwitz, et j'ai en effet en mémoire ce passage tout à fait extraordinaire de refus de témoigner. Non, je ne suis pas celle que voudriez que je sois. Ma patrie n'est pas Auschwitz. Auschwitz a été la catastrophe, ça a été le malheur. Et donc, nombre de déportés pouvaient parler comme elle. Et curieusement, leurs enfants ou leurs petits-enfants constituent leur identité autour précisément d'un événement qu'ils n'ont pas vécu et qu'ils ont du mal à imaginer. Ils peuvent le comprendre, ils peuvent savoir beaucoup de choses, mais l'expérience, fort heureusement pour eux, leur en est inaccessible. Faire son identité d'un événement qu'on n'a pas vécu, n'est-ce pas, si vous voulez, une situation presque impossible.
C'est une situation effectivement assez compliquée. Il y a encore dans un documentaire israélien une grand-mère qui parle à son petit-fils qui lui explique et puis qui lui dit mais tu ne peux pas comprendre et je suis contente que tu ne puisses pas comprendre. Donc il y a vraiment eu ce travail-là des survivants de ne pas charger les descendants et avec cette idée aussi que ne pas dire les protégerait ou mettrait une espèce de frontière entre les morts vivants d'avant et les suivants et les enfants et les petits-enfants, avec ce qu'on a appelé l'ère des petits-enfants, ils font exactement le contraire. Ils déterrent, ils remontent sur les traces d'eux, ils interrogent les archives.
Ils voyagent. Ils vont en Ukraine et en Pologne.
Voilà, exactement. Daniel Bendelsohn en a fait un livre absolument magnifique en Ukraine, à Auschwitz. On va sur les mémorials. On a l'impression comme ça d'espèces de circuits de la mémoire que les uns et les autres, avec énormément d'honnêteté, vont faire. Et puis la question se pose, mais finalement, à qui appartient cette histoire-là? Et c'est vrai qu'il y a un caractère indicible du génocide des Juifs qu'on peut discuter aussi, puisque finalement, oui. Les uns et les autres tournent autour et ont tourné autour, pour le dire d'une façon forcément incomplète et interprétative, mais quand même pour dire les choses. Mais donc, à qui appartient cette histoire-là? Et c'est une vraie question. Aujourd'hui, en Israël, il y a des jeunes, alors c'est une minorité, mais il y a des jeunes qui voient disparaître cette génération des survivants, et dans cette espèce d'angoisse de la disparition des traces, de la disparition de cette parole vive qui peut témoigner d'eux, eh bien, ils se font tatouer sur le bras le numéro de matricule de leur...
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est un geste pieux ou est-ce que c'est un geste sacrilège et même un peu histrionique?
Je trouve compliqué de s'approprier une histoire qui n'est pas la sienne. Je comprends la peur, je comprends parfois cette espèce de... Comme on va faire un nœud dans un mouchoir, je vais vite écrire... Donc, je comprends le mécanisme, mais effectivement, je crois que la responsabilité de la troisième génération, c'est de transmettre cette mémoire-là, mais de ne pas se... C'est toujours la question du trop près ou du trop loin. Et donc, il faut trouver sa juste place. Et on est forcément héritier de cette histoire-là et on a forcément une responsabilité à la transmettre, mais l'appropriation, c'est compliqué aussi.
Est-ce qu'il y a du côté arménien aussi des tentatives d'appropriation dans la troisième ou la quatrième génération? Est-ce qu'on peut trouver l'équivalent de ce tatouage chez certains petits-fils ou arrière-petits-fils de survivants?
Bon, il y a des analogies avec ce que vous dites, en particulier le fait que on a eu l'oubli puis la mémoire. Même si en réfléchissant à cette émission, en lisant votre livre, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même dans le cas arménien, mais c'est possible que ce soit pareil dans le cas juif, dans l'immédiat post-génocide, en 1919, avant l'oubli, il y a eu quelque chose comme le besoin de dire, de restituer, et même en concentré dans cette année 1919, on le voit dans un sommaire de l'année littéraire à Constantinople que fait un écrivain arménien qui est Odian, il y a presque une saturation par rapport à une forme de littérature de la déportation. Et puis, tout cela va effectivement disparaître au moment où l'exil va devenir définitif, c'est-à-dire au moment où les nationalistes turcs vont prendre le pouvoir et vont chasser ce qui reste d'Arméniens. Et là, on entre à ce moment-là dans un schéma qui est tout à fait celui que vous décrivez, et notamment dans le fait que la génération qui part, donc je ne sais pas si on doit l'appeler la première génération, va avoir comme souci principal de protéger ses enfants d'une confrontation trop
avec
vive à la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est seulement ensuite, c'est ceux qui n'ont d'une certaine façon plus besoin d'être protégée parce que leur vie est construite et qu'elle est construite dans une autre forme d'accueil, que ce soit d'accueil mental ou d'accueil matériel, eux vont pouvoir rentrer dans cette relation au génocide et quelquefois dans cette identification un peu excessive. Alors, la seule autre chose qui distingue, je pense, les deux cas, c'est que le génocide n'ayant pas été reconnu en Turquie, la relation au lieu où les choses se sont passées, est évidemment beaucoup plus problématique. C'est-à-dire qu'il y a, pendant très longtemps, jusqu'à il y a quelques années, et encore maintenant pour beaucoup d'Arméniens, une peur physique d'aller en Turquie. Ça, c'est le premier élément. Et en même temps, comme la Turquie est en train de changer, ça, c'est ça qui bouge, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Arméniens qui retournent sur les lieux et qui vont même, moi je ne m'en sens pas capable, qui vont même sur les lieux dont on sait qu'ils ont été des lieux de massacre, avec cette différence par rapport au camp de la mort.
Qui ne sont pas du tout des lieux de mémoire aujourd'hui. On sait que ce sont des lieux de massacre, mais...
Mais ils sont en train de le devenir. Ils sont en train de le devenir, mais pour le moment de façon totalement non officielle.
Ah oui, c'est ça.
Mais ils sont, mais depuis très peu de temps, un an, deux ans, ils sont en train de devenir des lieux de pèlerinage. Et avec cette différence, je disais que ce ne sont pas des camps qui ont été construits pour l'extermination. L'extermination, elle s'est faite en cachant les conséquences de la déportation et en profitant de la géographie, en profitant de la nature. Quand il y avait un ravin, quand il y avait un pont, une montagne, là on tuait les gens par dizaines, par centaines, et c'est là que certains maintenant retournent. Il y a cette
envie répressive de retourner. Et quand vous dites que vous ne vous en serez pas capable, Michel Marian, pourquoi? L'émotion serait trop forte ou...
Oui, je pense, enfin je n'exclus pas d'y aller un jour, mais j'attends, oui.
Et vous êtes allée à Auschwitz?
Et moi, je suis allée à Auschwitz deux fois adolescente, et puis j'y suis retournée une année avant l'écriture de Max en apparence.
Et est-ce que vous êtes allée avec votre grand-père?
Mon grand-père n'a jamais voulu retourner à Auschwitz et donc
est-ce que c'est à Auschwitz qu'il voulait pas retourner ou c'est
de toute façon plus général en Pologne,
voilà. C'est en effet l'attitude de la plupart des survivants polonais et l'interdit qu'ils ont fait peser d'ailleurs sur leurs enfants. Tu n'iras pas en Pologne, tu n'iras pas sur les traces de notre vie et de notre souffrance. Il a été très difficile de transgresser cet interdit. Mais, à un moment donné, vous parlez, à propos justement de votre grand-père, Nathalie Skowronek, de son silence. Et vous dites aussi, Michel Marian, qu'il s'agissait de protéger la première génération. Mais beaucoup de survivants font un témoignage très différent. J'ai reçu Simène Marceline Loridan-Ivens, et comme Simone Veil, elle disait j'avais beaucoup de choses à dire, mais ça n'intéressait pas. Alors elle, ce qui était affreux, c'est que ça n'intéressait même pas sa propre mère, qui voulait justement, Marceline Loridan-Ivens, savoir simplement s'il avait été violé. Bon, ben ça c'est un cas très singulier, mais je crois que beaucoup de rescapés étaient prêts à parler. Primo Levi le premier, puisqu'il a écrit « Si c'est un homme » très vite. Il a d'abord été refusé chez NAOD, puis publié en 1947. Le succès est venu beaucoup plus tard. Donc c'est aussi la société qui n'était pas prête à entendre, mais ces survivants, pour certains d'entre eux, parlaient à leurs enfants. Donc est-ce qu'on n'exagère pas ce poids du silence chez les rescapés?
Effectivement, et évidemment que ce sont pas des catégories étanches et qu'on ne classe pas comme ça les uns et les autres dans des espèces comme ça de modus vivendi très très rigides. Il y a Primo Levi, il y a Robert Antelme, mais il y a même Elie Wiesel. Donc des gens qui ont écrit d'emblée, il y en a eu. Et à côté de ça, je pense que cette chape de silence a aussi existé, en tout cas. Là où moi je suis et ce que moi j'ai vu autour de moi est allé beaucoup dans cette direction-là, avec un silence qui était extrêmement complexe, parce que vous avez évoqué donc mon grand-père qui ne voulait absolument pas remettre les pieds en Pologne, mais qui a refait sa vie après-guerre en Allemagne, à Berlin, et probablement avec des gens qui avaient aussi envie, autant intérêt que lui à garder un silence sur ce qui venait de se passer. Donc ce sont des silences qui sont évidemment extrêmement complexes, Et ça a été aussi un silence de survie. Aaron Alpelfeld le raconte très bien. Une nécessité d'oubli qui est un oubli existentiel. Chalamov dit, en revenant dans les récits de la Colima, que la capacité de vie d'un homme se mesure à sa capacité d'oubli. Donc, il y a eu un besoin de survie qui était une grande nécessité, un besoin de silence. Et puis, ce silence a aussi arrangé aussi les uns et les autres. J'ai évidemment écouté et lu le témoignage de Marceline Laurie dans Even, celui de Simone Veil. Donc je pense que c'est une réalité, mais à côté de ça, il y a cette réalité européenne quand même d'effacer les choses pour reconstruire, pour faire cette espèce de réconciliation nationale. Et cet intérêt d'oublier était aussi celui du jeune État d'Israël qui se construit en 48 et qui doit faire avec un homme nouveau, un homme qui regarde devant lui et plus derrière.
Là, il y a une différence profonde avec l'expérience arménienne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le génocide a vraiment été, comme vous l'écrivez, Michel Marion, un facteur d'identification. Parce que les Arméniens se sont heurtés tout de suite au refus de reconnaissance de la part de la Turquie. Et donc, c'était un véritable combat. Les Juifs n'ont pas été, justement, exposés à cette nécessité de faire reconnaître la Shoah par l'Allemagne ou par l'Europe. L'Allemagne s'est engagée quand même assez vite, même pas tout de suite, mais assez vite, dans un très, très puissant travail d'anamnèse. En Turquie, ça n'est pas le cas. On peut percevoir certains signes de changement dans la ligne officielle, mais c'est extraordinairement timide. Et là, il y a quand même un paradoxe que je voudrais que vous nous aidiez à éclairer, Michel Marion, car ce sont les Ottomans qui ont commis ce crime. Mustafa Kemal était le premier président de la République turque. Il a même écrit ou dit à un moment donné que le génocide était un acte honteux appartenant au passé. C'est le titre qu'a donné d'ailleurs l'historien turc Taner Aksam à son livre sur le génocide, un acte honteux. Il n'avait a priori aucune raison de reprendre ce crime à son compte, ou en tout cas d'en perpétuer la négation, puisque tout son propos c'était d'européaniser la Turquie et de marquer la plus grande distance possible avec le régime islamique qui l'avait précédé. Alors, d'où vient cette obstination? D'où vient cette continuité, Michel Marion?
Est-ce que je peux dire d'abord quelques mots sur l'invitation que vous nous avez faite précédemment à restaurer une forme de complexité par rapport à la séquence oubli et retour de la mémoire? Parce que je crois que vous avez tout à fait raison et je dois corriger peut-être l'impression que j'ai donnée. C'est-à-dire, je vais parler de ma famille aussi. La personne qui, dans ma famille, était vraiment la rescapée du génocide, c'était mon arrière-grand-mère. Et elle, sans avoir l'idée d'une entreprise éducative sur ce qu'a été l'extermination, évidemment, quelquefois, ça remontait. Elle avait besoin de parler. Et c'est la génération suivante, c'est-à-dire celle de ma grand-mère, qui disait aux enfants, ne l'écoutez pas, changez de sujet, ça va lui faire du mal d'en parler, et ça va lui faire du mal, le sous-texte était aussi, ça va vous faire du mal d'écouter. Et c'est seulement après qu'on est entré dans un autre régime de relation à l'événement. Et alors cet autre régime, oui, vous avez raison de dire que ça a été, mais donc à partir de 65, à partir du moment où ça s'est cristallisé autour du concept de génocide et autour de cette idée de revendiquer la reconnaissance internationale du génocide, là, il y a eu le fait d'aller chercher cette mémoire auprès des survivants. Et alors, donc la question, c'est pourquoi la Turquie s'est figée dans cette position ? Alors, sur la période que vous avez citée de Mustafa Kemal, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a une raison de fait, c'est que Mustafa Kemal, dans son entreprise de revanchisme, un peu comme l'ont fait les nazis, mais beaucoup plus tôt, de révisionnisme par rapport aux conditions que les alliés voulaient imposer à la Turquie défaite, il s'est entouré de dans sa lutte d'indépendance, il s'est entouré de tous ceux qui avaient participé au pouvoir jeune turc, donc beaucoup de bourreaux des Arméniens. Donc il y avait ce lien humain. Et puis l'autre chose, vous dites c'est un paradoxe, c'est vrai que c'est un paradoxe que cette Turquie laïque, pas démocratique mais modernisatrice, nie, efface ce souvenir d'un crime commis par les Ottomans. Oui, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui ont décidé de commettre le génocide l'ont fait aussi pour montrer, ils étaient un peu eux aussi des modernisateurs, c'était pas des réactionnaires au départ, mais ils l'ont fait pour montrer aux masses musulmanes qu'ils n'étaient pas à la solde de ces minorités chrétiennes ou non musulmanes, occidentalisées, etc. Et du coup, ça a facilité pour Mustafa Kemal la possibilité, puisque ça a été longtemps le seul pays musulman, mais c'était peut-être encore aujourd'hui, à assumer la laïcité, il a pu le faire parce que ne pesait plus sur la Turquie le soupçon que cette entreprise-là était une entreprise en réalité de soumission à l'Occident par l'intermédiaire et de soumission à l'Occident et de préparation de l'enrichissement des non-musulmans.
Mais est-ce que vous ne craignez pas justement que la réislamisation de la Turquie sous Erdogan n'éloigne en réalité une véritable reconnaissance pour les raisons justement qui ont poussé Mustafa Kemal à, sinon assumer tout à fait l'héritage ottoman, du moins à nier le crime commis. Donc, si c'est ça, pourquoi l'islamisation de la Turquie devrait-elle entretenir un certain espoir, monsieur Marie ?
Alors, c'est la question d'aujourd'hui. D'abord, un constat sur la première période du pouvoir néo-conservateur, néo-islamique. Ils ont quand même laissé faire le retour de la conscience et le retour de l'histoire. Ils ont accepté qu'il y ait des pétitions qui leur demandent à eux de reconnaître le génocide. Ils ont accepté que passe à la télévision des démocrates turcs qui exigent cette reconnaissance. Ils ont accepté que des livres soient traduits en turc sur cette histoire. Donc tout ça, ils l'ont fait, et ils l'ont fait pour des raisons qui sont que il y avait deux raisons. La première, c'est qu'ils ne se reconnaissaient pas effectivement dans l'affiliation kémaliste, donc ne se sentaient pas engagés dans une sorte de solidarité à deux étapes avec les jeunes turcs. Et l'autre raison, c'est que c'était le moment où leur objectif était l'adhésion à l'Europe. Et donc, ils donnaient des gages comme ça. Cette période est derrière nous, mais elle a laissé, je crois, là, vous avez raison, c'est un pari, mais il me semble qu'elle a laissé de l'irréversible. Elle a laissé de l'irréversible, et maintenant, cette question de du retour de la mémoire arménienne, parce que c'est la mémoire, ça peut plus être vraiment les personnes, enfin les descendants, mais le retour de la mémoire arménienne et l'accueil de cette mémoire et la place qu'on doit lui donner, elle est maintenant posée en Turquie, elle est posée vraiment non seulement chez les intellectuels, mais même par des partis politiques.
Nathalie Skovronek, justement, dans la réflexion qui est la vôtre sur la Shoah, et donc sur l'unicité, la singularité de cet événement fou, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une place pour l'idée d'une communauté de destin avec d'autres victimes, et notamment avec les Arméniens, puisque les Arméniens eux-mêmes, ayant fixé leurs revendications au moment de Nuremberg en disant « oui, nous avons vécu quelque chose du même ordre », est-ce qu'il y a aussi une répercussion chez certains juifs?
Oui,
ce
que je découvre, c'est comme ces deux mémoires ont des points communs, mais ont finalement le mot n'est pas joli, mais c'est celui qui me vient, un timing très différent. Donc finalement, le génocide arménien, donc qui a 100 ans, arrive, de ce que je comprends, seulement maintenant à cette espèce d'appropriation individuelle de la mémoire, parce qu'il a fallu d'abord passer par le combat politique, par la revendication, par la reconnaissance des faits, et donc maintenant arrive à ce que finalement la mémoire de la Shoah a déjà fait, parce qu'elle n'a pas eu à se battre contre ça, c'est-à-dire enquêter à titre personnel, se situer par rapport à cette histoire, lire les livres, etc. Par contre, là où il y a eu un temps un petit peu différent, c'est que il me semble que la mémoire de la Shoah et que les gens qui s'y sont intéressés ont été pendant très longtemps extrêmement centrés sur leur propre histoire. Et que d'abord, l'histoire de la Shoah a été évidemment au centre de l'histoire du XXe siècle et que nous aussi, on a été probablement très très hermétiques à ce qui se passait ailleurs. Il me semble que c'est en train de changer et que maintenant, peut-être du fait que le temps passe, du fait que cette mémoire se entre petit à petit dans l'histoire, puisque le temps et les survivants disparaissent, eh bien, nous permet d'ouvrir davantage les yeux et les oreilles et d'être beaucoup plus réceptifs à d'autres histoires, je crois.
Et Michel Marion, est-ce que vous, de votre côté, puisque cette cause vous occupe et vous importe depuis longtemps, vous avez senti ou non une certaine solidarité juive officielle avec les Arméniens, et comment vous débrouillez-vous avec cette difficulté? Il y a quelque chose d'unique dans l'extermination des Juifs et des Tziganes, et en même temps, il y a quelque chose de paradigmatique aussi, puisque cet événement permet d'éclairer a posteriori ce qui a été fait aux Arméniens.
Entre Arméniens et Juifs, il y a assez spontanément des sentiments de... des perceptions, en tout cas, de reconnaissance, de proximité sur le destin, pas simplement le génocide, les génocides, mais avant, etc. Ça, c'est, je crois que c'est clair, je ne vais pas raconter d'anecdotes, mais c'est évident. Sur la première question que vous me posiez, c'est-à-dire est-ce que j'ai senti dans les positions officielles. Oui, je crois qu'il y a une différence. Il se trouve que, tout de même, pour le maintien en mémoire de ce qui était arrivé aux Arméniens, avant même qu'on appelle ça génocide, il y a souvent des Juifs, des intellectuels, des créateurs, des juristes. J'ai cité Lemkin tout à l'heure, mais on peut parler de Franz Werfel, on peut parler de beaucoup de monde.
40 jours de Moussadag, dans les années 30.
Voilà, c'est ça. Il y avait une sensibilité juive particulière au destin des Arméniens. Ce qui s'est passé au milieu des années 90 a été un peu différent parce que, pour des raisons qui, je pense, n'avaient rien à voir avec le cas des Arméniens, il y a eu de la part de certains milieux juifs une écoute d'une propagande turque qui s'appuyait sur la singularité de la Shoah pour expliquer qu'il fallait surtout pas que les autorités politiques, et notamment américaines, reconnaissent les événements de 1915 comme un génocide. Mais ça n'a pas duré très longtemps au niveau, disons, des académiques, au niveau
des historiens. Ça tenait au lien de l'État d'Israël avec la Turquie.
Je pense que ça tenait, c'est ça, oui, ça tenait au lien, mais ça, à un moment, ça a mordu aussi sur certains historiens américains de la Shoah. Et puis, Hilberg a regardé les choses, il a changé d'avis, et les autres avec lui, Boer, toutes les autorités sur la Shoah ont changé d'avis et ont dit aux congressistes américains que 1915 était un génocide. Donc, sur le plan intellectuel, les choses ne posaient plus de véritables problèmes. Et ce qui s'est passé depuis, la nouveauté, c'est que dans les toutes dernières années, et beaucoup du fait des provocations antisémites de l'ancien premier ministre turc, désormais président, les autorités israéliennes ont commencé à prendre leur distance aussi par rapport à la Turquie, et il y a eu cette année à la fois des déclarations très très belles du président israélien, oui, Rivlin, citant des témoignages juifs de 1915 et expliquant la commotion qu'avait produite l'arrivée de réfugiés arméniens jusqu'à Jérusalem. Et puis, un engagement, on peut dire, de beaucoup de centres culturels juifs à faire des expositions, des débats, etc., autour du génocide arménien.
Mais est-ce que du côté arménien, il n'y a pas eu aussi, à un moment donné, un phénomène de ressentiment victimaire à l'égard des Juifs qui accaparait la mémoire la position de la victime absolue? Est-ce que ça n'a pas joué dans la constitution de ce groupe dont vous parlez, la SALA, Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, qui s'est réclamée de la libération nationale sur un modèle explicitement palestinien.
Oui, mais Palestine, c'est vrai. C'est vrai que c'était un modèle palestinien, palestino-libanais, je ne sais pas comment le caractériser. Mais là, non, il n'y avait pas d'antisémitisme. Il y avait effectivement un alignement sur des positions et une manipulation, d'ailleurs, qui s'est révélée par la suite par le régime syrien. Donc, c'était pas, on ne peut pas dire que c'était des amis d'Israël, mais c'était pas, il n'y avait pas d'antisémitisme. Bon, maintenant, un ressentiment par rapport à une forme de sentiment de surexposition de la Shoah par rapport au génocide, ça peut exister, ça a pu exister chez certains Arméniens. Le fait qu'il y ait c'est-à-dire tout le monde, on soit plus exigeant vis-à-vis des Juifs que vis-à-vis d'autres en termes de soutien, ça c'est vrai aussi. Bon, il n'empêche que, et c'est particulièrement frappant dans la dernière période, dès que l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme dans un pays comme la France, hein, je connais moins bien ce qui se passe ailleurs, s'est révélé, manifesté.
On est gâtés aussi.
Les organisations arméniennes ont été au premier rang de la solidarité. Je pense en particulier à des choses qui se sont passées à Sarcelles ou où là il y a des Arméniens aussi. C'est-à-dire elles ont tenu à montrer aussi que sur le terrain il y avait une solidarité.
Michel Marian vient de parler de cette surexposition de la Shoah, Nathalie Skovroniec, et vous y faites aussi un peu référence dans votre livre. Est-ce que c'est pas une sorte de difficulté pour ceux aujourd'hui qui veulent continuer à assumer cette mémoire?
C'est une question qui doit être posée. C'est une question qui n'est pas agréable à poser. C'est pas agréable de se dire, tiens, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une surexposition? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que, en parlant de cette histoire-là qui est, évidemment abominable, enfin je veux dire ça, c'est des choses qu'on, c'est pas la peine de les répéter, mais en œuvrant pour qu'il y ait une pérennisation de cette histoire-là, est-ce qu'on n'occulte pas d'autres choses? Est-ce que ça nous rend pas aveugles à d'autres histoires? Et donc c'est pas une question agréable, mais c'est une question qui doit se poser. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, nous les descendants, à chaque génération, son histoire et ses priorités, mais nous, petits-enfants et bientôt arrière-petits-enfants, on ne peut pas faire l'économie de se dire, voilà, maintenant, à ce stade-ci, maintenant que les récits ont été écrits, maintenant que les historiens ont fait leur travail, maintenant que les lieux de mémoire existent, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment est-ce qu'on va continuer, ne pas continuer? Qu'est-ce qu'on va endosser du fardeau? Voilà, ce sont des questions.
Oui, ce sont des questions qui sont posées dans un livre qui a eu un grand retentissement aux États-Unis, beaucoup moins en France, Mon Holocauste de Tovah Reich, très soutenu notamment par Cynthia Ozick, qui a vu une satire absolument géniale, mais dans la mesure où c'est un livre iconoclaste sur la mémoire, il a un peu fait peur aux critiques français. C'est un livre totalement burlesque sur les excès ou les folies actuelles de la mémoire, mais il y a un passage qui me paraît très important parce que l'un des personnages dit qu'il a bataillé contre les six silences, le silence des assassins qui croyaient que le monde s'entendrait pour couvrir le crime, le silence des collabos qui étouffaient leur participation en laissant tacitement entendre qu'ils étaient également des victimes, le silence des spectateurs, des témoins, le silence des leaders de la communauté juive américaine, le silence des 6 millions de victimes qui ne pouvaient pas parler en leur propre nom. Mais justement, il fallait rompre ces silences, mais constate le personnage, et avec lui Tovah Reich, ces silences toxiques avaient provoqué un tel tumulte et une telle cacophonie que ça donne envie de se boucher les oreilles, tout le monde se disputant les restes de l'Holocauste pour en avoir son morceau à soi, des mémoriaux jaillissant de terre un peu partout. Et elle imagine aussi cette scène tout à fait extraordinaire du musée de l'Holocauste à Washington, soudain occupé par un mouvement des Holocaustes unis. coalition arc-en-ciel des holocaustes unis qui regroupe tous les holocaustes et demandant justement aux juifs souhaitant casser le monopole juif, l'holocauste gay et lesbien, l'holocauste chrétien, l'holocauste musulman, l'holocauste tibétain et ainsi de suite, l'holocauste nucléaire imminent, l'holocauste végétal contre la marijuana et d'autres fruits et légumes, l'holocauste des espèces de plantes et d'animaux en voie d'extinction, du pâtirin des prés au bébé phoque, du fisaria à la chauve-souris à long nez, plus, etc., etc. Donc là, tout d'un coup, ça devient un véritable délire, mais tout le livre est fondé sur cette idée qu'on, en fait, on ne peut pas dire « mon holocauste ». Et là, j'en viens à ma première question. On a peur que ce livre fasse le jeu des négationnistes, mais ce que dit Tova Reich, c'est que, justement, l'appropriation, c'est déjà le premier sacrilège. L'appropriation par les uns, puis cette appropriation folle par ceux qui veulent leur part du gâteau. Voilà. Et comment conserver de l'inappropriable dans la mémoire? Il me semble que c'est ça le sujet et que c'est ça la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.
Je pense que c'est vraiment l'enjeu, il est là. Le livre de Tova Reich s'appelle donc Mon Holocauste, mais quelques années avant, un écrivain israélien avait écrit aussi un livre qui s'appelait Ashoah Sheli, donc ma Shoah à moi. Et donc, et en même temps, le destin de chacun, c'est se situer soi par rapport à cette histoire. Donc le pronom possessif, on le comprend, mais effectivement, il y a à un moment donné une espèce d'appropriation, de captation de l'événement et elle va vraiment appuyer Tova Reich là où ça fait mal et surtout toutes les dérives possibles. Et moi, je me souviens d'une amie juive qui lisait le livre et qui me disait, écoute, je rigole beaucoup parce que vraiment, elle appuie là où ça fait mal, mais j'espère une seule chose, c'est que les non-juifs ne tomberont pas dessus. Donc,
écoutez, je ne sais pas, enfin, certains peuvent le lire quand même, mais effectivement, on peut en faire un mauvais usage et on m'a montré sur Internet le texte d'un révisionniste ou négationniste se frottant les mains devant ce livre en disant, bah, maintenant, ce sont les juifs qui le disent, donc il faut travailler à notre place. Mais or, elle dit tout autre chose. Certains non-juifs aussi qui peuvent le comprendre. Quand même.
Moi, je ne m'associe pas du tout à cette façon de penser. Je pense que le repli communautaire ne mène à rien et de toute façon, antisémites et négationnistes se débrouillent très bien sans nous pour faire leur travail.
Michel Marian, là, je voudrais en venir au dernier chapitre de votre livre, d'Antigone à Énée. La figure d'Antigone, on peut comprendre, hein, la grande protestation, etc.
Et la grande protestation est très précisément la volonté d'enfin pouvoir enterrer son frère mort.
Exactement.
Ce qui rejoint beaucoup certaines formulations des Arméniens disant tant que le génocide ne sera pas reconnu, nos morts ne seront pas enterrés et seront voués à l'errance.
Et Énée, cette figure, le héros de l'Énéide de Virgile, dont Barbara Cassin nous dit dans son livre La Nostalgie que la nuit de la chute de Troie, quand il n'y a plus rien à espérer, il étend sur ses larges épaules et sur son cou baissé une peau de lion fauve et se charge de son père Anchise, à qui il demande de prendre dans sa main les objets sacrés et les pénates de la patrie. Alors, en quoi la revendication à la cause arménienne s'identifie-t-elle à la démarche d'Énée aujourd'hui?
Alors justement, ce que j'ai essayé de penser, ça n'est pas la cause arménienne en tant que telle, mais c'est justement la sortie possible un jour de la cause arménienne. Donc Énée, c'est d'une part effectivement, ça n'est pas Antigone, ça n'est pas le rappel insistant du crime qui a été commis et le retour à des règles. Ça n'est pas non plus, et c'est pourquoi j'ai cité le livre de Barbara Cassin, ça n'est pas non plus Ulysse. C'est-à-dire que, bon, d'une part parce que ce n'est pas un vainqueur, et puis surtout parce qu'il ne retourne pas chez lui. Il est obligé de partir, et je pensais que cette insistance sur, bien sûr, la ruine de Troie, quand on lit les Troyennes de Ripide, on peut avoir l'impression d'être dans des scènes qui sont très parlantes pour les Arméniens, mais c'est surtout le fait que Énée a dû donc prendre effectivement son père, son fils, les emmener et recréer une vie ailleurs, Donc c'est une façon de, d'assumer en même temps l'installation définitive, ou en tout cas durable ailleurs, et en même temps le, la question de savoir ce qu'on va apporter avec soi dans, dans cet ailleurs. Mmh. Et ce qu'on va apporter avec soi, après on peut discuter. Je pense que l'une des choses qu'on apporte avec soi, c'est aussi ce, ce long combat pour la reconnaissance et ce que nous allons pouvoir faire de ce dialogue avec les Turcs qui commence après 90 ans de mutisme et de tabou.
Est-ce qu'il y a une analogie possible avec le destin juif dans cette figure d'aîné qui emporte son père sur les épaules et qui va essayer de réaliser son destin ailleurs?
Oui, et évidemment.
Nathalie Skovronek.
Évidemment, il y a cette idée qu'on est les héritiers d'une histoire et qu'on la déplace. On n'est pas, on n'est évidemment pas figé à un endroit. On se déplace et on prend avec nous, le passé. Après, comment et jusqu'à quand? Puisque ce qui se pose ici maintenant aussi, c'est cette émergence encore très timide, mais de cette quatrième génération, c'est-à-dire notre horizon à nous, c'est l'horizon des grands-parents. Une fois qu'on dépasse l'horizon des grands-parents, on arrive dans quelque chose qui passe par, par des récits, par de la mythologie familiale, mais qui n'est plus cette parole qui est directement dite à l'oreille. Et donc,
mais c'est aussi une quatrième génération confrontée à l'émergence d'un antisémitisme singulier, dont on n'est plus protégé par la référence à la Shoah, puisque précisément, il peut être dit que les Juifs en Israël font aux Palestiniens ce qu'ils ont eux-mêmes subi. Il y a un article en 2003 qui écrivait, dont les auteurs écrivaient que le peuple élu agit comme la race supérieure. Donc il y a tout d'un coup ce retournement de l'événement fondateur contre les Juifs eux-mêmes.
Absolument.
Et ça, c'est quand même une situation
Et eux se retrouvent ou vont se retrouver, ou sont en train de se retrouver face à des repères qui sont en train de se fragiliser et de se déplacer, puisque si la mémoire de la Shoah pouvait à un moment donné constituer une identité, et si elle pouvait quelque part faire office de paratonnerre par rapport à toutes ces histoires-là, et bien tout ça, le paratonnerre, maintenant, il est de moins en moins opérant, donc il cette quatrième génération va se retrouver à la fois héritière de cette histoire-là qu'elle a encore à transmettre et en même temps sans les espèces de verrous ou de barrières qui régulaient certaines formes de liens sociaux ou de...
Oui. Alors quand même, maintenant que nous arrivons au terme de notre émission, il faut absolument que vous nous éclairiez, Nathalie Skovronek, sur cet étrange titre, La Shoah de Monsieur Durand. Qui est ce monsieur Durand? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et cette histoire, quel sens lui donnez-vous? Nathalie Skovronek.
Ben écoutez, la Shoah de monsieur Durand pose justement cette question de l'avenir. Donc d'abord, cette Shoah qui deviendrait une Shoah de monsieur tout le monde, qui serait finalement déconnectée de son noyau d'origine, ou en tout cas un lien qui se détendrait. Et donc cette Shoah, ben, elle serait à qui, elle parlerait à qui, si c'est monsieur Durand qui en deviendrait le porte-parole. Mais à côté de ça, il y a un deuxième sens, parce qu'on découvre dans le livre qui est monsieur Durand. Et en fait, c'est une blague juive que j'ai beaucoup entendue enfant et par des gens qui le racontaient avec plus de sel que moi, parce qu'ils avaient un accent juif que j'ai du mal, enfin yiddish que j'ai du mal à, que j'ai du mal à reproduire. Donc voilà, écoutez, jusqu'ici, j'ai refusé de raconter la blague. Ici, j'ose pas vous dire non, donc je me lance. Donc c'est en fait monsieur Dupont qui va à l'administration, qui va à l'état civil et qui demande à changer de nom et à se faire appeler maintenant monsieur Durand. Et donc la personne en face de lui regarde dans ses dossiers et dit, écoutez, monsieur Dupont, vous êtes déjà venu l'année passée. L'année passée, vous vous appeliez Maurice Shmulevitch. Alors, je peux comprendre quand vous vous appelez monsieur Shmulevitch, je peux comprendre que vous avez peut-être envie un peu de discrétion et que vous voulez vous appeler monsieur Dupont. Mais ici, là, vraiment, passer de monsieur Dupont à monsieur Durand, vraiment, là, je ne comprends pas. Et donc, monsieur Shmulevitch donc, explique le motif de sa visite. Et donc, à ce moment-là, il dit, écoutez, chaque fois quand on me demande comment je m'appelle, je dis monsieur Dupont, donc avec l'accent yiddish. Et en face, on lui dit, bah, d'accord, vous appelez monsieur Dupont, mais avant, vous vous appeliez comment? Et donc, il est obligé de nouveau de dévoiler cette identité dont il voudrait un petit peu se libérer en devant dire qu'avant, il s'appelait monsieur Shmulevitch. Donc, il a trouvé la parade. Et bien maintenant, quand on me dira monsieur Durand, comment vous appeliez avant, ben, je dirais, avant, je m'appelais monsieur Dupont.
Et quel sens vous donnez à cette histoire alors ?
Le sens que je donne à cette histoire, c'est cette difficulté finalement aussi, et ce poids que ça peut être de porter une histoire lourde, une histoire complexe, et qu'à certains moments, on veut peut-être pouvoir se libérer d'une certaine façon de cette histoire-là, pas la déposer, puisque M. Durand est toujours M. Shmulevitch, mais peut-être ne pas... peut-être qu'à un moment donné, on a envie que les choses s'allègent un petit peu, ne pas toujours être référencé à ça.
Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Elle me fait penser à ces écrivains arméniens d'après le génocide qui ont été tentés, les uns et les autres, de changer de nom. Enfin, qui n'ont pas été tentés, qui ont choisi des pseudonymes. Dans certains cas, des pseudonymes qui faisaient plus arméniens, comme si c'était une sorte de revanche ou de résistance après coup. Et dans d'autres cas, au contraire, des pseudonymes qui aillent mieux avec ceux des sociétés d'accueil et qui marque d'ailleurs volontairement une rupture avec ces institutions arméniennes qui avaient amené à la catastrophe, ou en tout cas qui l'avaient laissé se produire.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'Arméniens en France, par exemple, qui ont changé de nom ?
Les statistiques n'existent pas. Je sais que lorsqu'ils changent de nom, les autres Arméniens ont du mal à le supporter.
Ah oui, hein, ça,
souvent.
Ça. Mais est-ce qu'il y en a qui reviennent à leur nom arménien ?
Oui. Alors, d'abord, il y a beaucoup d'Arméniens issus de Turquie qui ont des noms de consonance turque. Beaucoup s'en accommodent, d'autres moins, et ceux-là, c'est le premier contingent de ceux qui veulent changer de nom. Ensuite, de gens qui ont des noms vraiment français et qui veulent revenir à des noms vraiment arméniens, j'ai peu d'exemples.
Mon père m'a raconté cette histoire qu'à un moment donné, retour de déportation, etc., il avait souhaité un peu alléger son nom, sinon complètement changer de nom. Et on lui aurait dit à l'état civil, écoutez, qu'on avait de disponible que Finkelhaft. Et donc, à ce moment-là, il s'est dit que le jeu n'en volait pas la chandelle. C'est une autre histoire que celle de Monsieur Durand. Une histoire sur laquelle nous terminerons donc cette émission. Merci beaucoup, Michel Marian. Merci beaucoup, Nathalie Skofrenek. Je rappelle le titre de vos 12 ouvrages. Michel Marian, le génocide arménien, de la mémoire outragée à la mémoire partagée. Ce livre est publié dans la bibliothèque Idée, chez Albin Michel. Nathalie Skofrenek, La Shoah de Monsieur Durand, livre publié aux éditions Gallimard. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Simon Laisse, éducateur, et mes invités seront Pierre Bonsen et François Sureau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Desmonts. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet. Comment l'Angleterre est entrée dans l'Europe avant d'en sortir ? Point d'interrogation avec Maurice Weiss.